Bonjour Marie-Laure Denis.
Bonjour David Abiker.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes conseillère d'État. Vous avez exercé de nombreuses fonctions au sein de la République, au sein de l'État. Vous présidez aujourd'hui la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Je l'ai dit in extenso, la CNIL, je ne le dirai plus. Quand une attaque informatique frappe la France comme celle qui vient d'avoir lieu, les données personnelles des Français sont-elles en risque ?
Le risque de sécurité, en tout cas, sur les données est de plus en plus massif. On l'a vu donc très récemment sur ces attaques dont je crois savoir indirectement, mais ça relève plutôt de l'ANSSI, qu'elles sont massives mais inoffensives parce qu'il s'agissait d'une attaque par ce qu'on appelle déni de service, c'est-à-dire utiliser des milliers ou des millions d'appareils pour bloquer des serveurs en quelque sorte, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des fuites de données. En revanche, on a assisté il y a quelques semaines, par exemple, à des fuites de données concernant des dizaines de millions d'assurés de plus de 80 mutuelles. Et là, le rôle de la CNIL, notamment, a été de dire à ces compagnies mutuelles, à ces sociétés, d'informer chacun des assurés individuellement de ces attaques. Parce que, très concrètement, il faut que vous soyez conscient, après, que vous pouvez subir des tentatives d'hameçonnage, comme on dit. C'est-à-dire que comme votre numéro de sécurité sociale, par exemple, et un certain nombre de données ont été compromises, on peut vous faire croire qu'en vous envoyant un mail pour un remboursement, de cliquer sur ceci et aspirer beaucoup de vos données. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'usurpation d'identité. Donc, il faut vraiment avoir une hygiène très stricte sur ces données, avoir des mots de passe robustes, notamment. Je souligne d'ailleurs que la CNIL, sur son site, qui est consulté par plus de 12 millions de personnes par an, a un générateur de mots de passe. Par exemple, si je dis... Je suis l'invité de la matinale de Radio Classique à 8h15 avec un point d'exclamation. Il y a tout ce qu'il faut pour, en prenant le début de chaque mot, pour avoir un mot de passe robuste. Un chiffre, un caractère spécial, un point d'exclamation, une majuscule et suffisamment de caractères. Donc, oui, il faut vraiment séparer aussi ce qui est sur le plan électronique personnel et professionnel. La CNIL publie beaucoup de recommandations sur son site ou auprès des professionnels.
Est-ce que ces attaques ont redoublé depuis que le contexte géopolitique s'est tendu, où finalement elles sont liées au progrès de l'informatique et à l'utilisation massive par les Français des téléphones portables ou des ordinateurs, où y a-t-il un enjeu ou un facteur international, si on peut parler de cette façon ?
Probablement les deux. Le directeur général de l'ANSSI a récemment relevé qu'il y avait eu plus 30% de cyberattaques l'année dernière. Nous, on le voit parce que quand ce sont des données sensibles qui sont compromises, les entreprises doivent nous notifier ces violations de données. On en a eu près de 4 600 l'année dernière, une augmentation de 15%. Et je pense que les deux facteurs jouent parce qu'il y a effectivement une volonté de déstabilisation d'un certain nombre de puissances. Mais il faut bien voir aussi tout simplement que il y a une grosse pêche au chalut, en quelque sorte, de la cybercriminalité, parce que les données ont une valeur et qu'elles se revendent notamment sur l'Internet sombre, ou ce qu'on appelle le dark web. Donc je pense que c'est vraiment la conjugaison des deux qui joue.
Marie-Laure Denis, votre mandat a été renouvelé il y a quelques semaines, pour 5 ans, avec un certain nombre de priorités qui recoupent à la fois l'actualité et puis des grands sujets de préoccupation récurrents des Français et des acteurs économiques. Commençons par les élections européennes. Quel rôle peut jouer la CNIL quant au bon déroulement des élections européennes, dont certains disent, y compris à ce micro, Axel Daucher, il y a quelques semaines de Make.org, qu'il fallait un bouclier numérique pour les élections européennes, avec des risques de deepfake, etc., etc. Vous, c'est les données personnelles des Français. En quoi leur captation peut bouleverser le scrutin européen ?
On a vu tout simplement en 2016 à quel point la compromission des données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook a pu influencer les élections présidentielles américaines ou la campagne pro-Brexit au Royaume-Uni. Donc le but de la CNIL pour les élections du 9 juin, avec les compétences qui la concernent, c'est à la fois de veiller à ce qu'il y ait de la transparence sur l'utilisation des données des électeurs, qui font l'objet souvent de prospection politique par la voie électronique, et puis d'autre part qu'ils puissent vraiment exercer ce qu'on appelle leur droit sur leurs données, qu'ils aient un contrôle sur leurs données, et notamment qu'ils puissent s'opposer à l'utilisation de ces données. On avait eu un observatoire des élections européennes il y a 5 ans, et on a eu 700 signalements à l'époque, et 93% des signalements concernaient des SMS, SMS ou des appels, donc de la prospection sur le téléphone. Et on vient depuis hier de réactiver cette plateforme de signalement. J'ai écrit à tous les partis, à tous les candidats. Donc transparence et contrôle et la possibilité pour les personnes de s'opposer à cette prospection.
Il y a un autre dossier sur lequel vous travaillez, c'est les Jeux Olympiques, de façon inattendue. Mais en fait, vous vous intéressez au dispositif de surveillance des publics des Jeux Olympiques. Et là, la CNIL a encore un rôle à jouer.
Alors, à la fois sur l'accès au périmètre sécurisé, parce qu'il y a des données avec des QR codes qui seront bientôt en vigueur, à la fois sur la billetterie, à la fois sur l'hébergement des données sensibles, à la fois sur les enquêtes administratives qui peuvent être faites à partir de données pour toutes les bénévoles, enfin pour tout le monde sauf les spectateurs qui sont concernés, mais essentiellement sur les caméras dites augmentées ou intelligentes pour trouver le bon équilibre entre la sécurité publique, qui est un objectif tout à fait légitime pour cet événement hors norme, et la préservation des libertés dans l'espace public, qui est le lieu où s'exercent les libertés de manifestation, d'expression, etc.
Et donc, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est un débat vieux comme l'État, à savoir le contrôle et la préservation de la liberté. Il a lieu à chaque vote d'une loi antiterroriste, il a lieu à chaque fois qu'on veut protéger des manifestants tout en garantissant la sécurité des commerçants, par exemple. Vous êtes entre deux feux, d'une certaine façon, à la CNIL.
C'est tout l'intérêt de la régulation de la CNIL d'essayer de trouver, avec le gouvernement et le législateur, naturellement, le bon point d'équilibre. Et là, je crois que les recommandations qu'avait faites la CNIL pour la mise en œuvre de ces caméras intelligentes, donc c'est de l'intelligence artificielle embarquée sur des caméras, soit sur des drones, soit sur des caméras classiques, qui ont pour objet non pas de vous identifier, c'est pas de la reconnaissance faciale, mais qui ont pour objet d'analyser des comportements suspects. Il y a 8 cas de figure, un bagage abandonné, une voiture qui roule en sens inverse, un départ de feu, une arme qui est déployée, etc. Mais donc ces technologies, si elles fonctionnent bien, c'est un plus pour la sécurité publique, mais elles comportent des risques parce que du coup l'œil humain n'est plus une limite. Avant on se disait, je sais pas, un œil humain peut pas voir plus de 50 écrans pour qui diffusent des images. Là c'est sans limite puisqu'il y a des alertes en quelque sorte. Donc c'est là où il peut y avoir un risque de surveillance massive dans l'espace public. Il peut y avoir des biais aussi parce qu'il faut penser que la technologie n'est pas non plus toute puissante. Il peut y avoir quelqu'un qui sort un parapluie qui est détecté comme étant dangereux alors que la machine l'a utilisé comme une arme. Et donc les garanties tranchées par le législateur et que la CNIL contrôle et qu'elle a encore regardé de près lors d'un concert de Depeche Mode.
Où j'étais? Donc vous m'avez filmé.
Alors,
vous avez vérifié qu'on n'utilise pas mon image dans les gradins de Bercy.
Et en particulier, là, les caméras étaient déployées plutôt à l'extérieur, mais effectivement, la CNIL contrôle que seules les personnes habilitées ont accès à ces images, qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale, qu'elles ont lieu sur un périmètre déterminé, que les données ne sont pas conservées excessivement, voilà.
Vous nous évitez de basculer dans ce qu'on appelle le contrôle social tel qu'il peut être mis en œuvre en Chine, où la Commission nationale d'informatique et liberté, ou votre équivalent, votre cousine, n'a pas les mêmes prérogatives. Je voudrais qu'on termine sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet à la mode. L'intelligence artificielle brasse énormément de données, et là aussi, c'est un sujet qui monte à la CNIL, et on finira avec ça.
Une des anciennes versions de ChatGPT, la 3, était entraînée sur 175 milliards de paramètres, par exemple. Et parmi celles-ci, il y a naturellement des données personnelles. Et c'est vrai qu'il y a une tension entre la protection des données. On dit qu'il faut en avoir le moins possible. Là, pour entraîner l'intelligence artificielle, il en faut beaucoup. Mais on dit, par exemple, très concrètement, pour un projet de recherche, parce que ça peut être très utile en matière de médecine, évidemment, l'intelligence artificielle, pour détecter le cancer de la prostate, peut-être pas utile d'utiliser les données médicales des femmes, par exemple. Ce qu'on a vu dans un projet de recherche, là, c'est la minimisation des données. Il peut y avoir une tension sur les finalités. Pourquoi développe-t-on ces programmes d'intelligence artificielle? Les développeurs ne le savent pas nécessairement, alors que pour protéger les données, il faut se dire, on exploite des données, d'accord, mais pour une finalité particulière. Nous, si on nous dit, c'est pour développer un système de vision par ordinateur pour détecter des piétons, des voitures, des panneaux de signalisation, ça nous va. Donc vraiment, la philosophie de la CNIL et de son collège, c'est d'accompagner l'innovation en amont pour qu'elle soit respectueuse de la protection de la vie privée. Et on a déjà diffusé beaucoup de conseils pratiques que les développeurs ou les utilisateurs d'intelligence artificielle peuvent consulter.
Vous avez un rôle de prévention. notion de mise en garde, mais aussi de sanction. Et vous sanctionnez pas à la légère, c'est des millions d'euros que vous infligez.
Depuis la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, il y a presque 6 ans maintenant, en tout cas sur ces 5 dernières années, nous avons prononcé plus de 600 millions d'euros de sanctions, effectivement, avec des injonctions pour faire bouger les pratiques, par exemple sur les cookies, sur les traceurs, que vous pouvez maintenant, grâce à la régulation de la CNIL, refuser.
600 millions d'euros encaissés par l'État.
Oui, effectivement, malheureusement, qui n'abonde pas le budget de la CNIL. Je vous confirme.
Dommage pour vous, Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL. Merci d'avoir été l'invitée de Radio Classique ce matin. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres ce matin, Christophe Barbier et Lucie Robquin des Échos. Merci, madame.